Bonjour, vous écoutez Le Fil du Fer sur Radio FM Plus 91 FM. L'enregistrement de la conversation se fait toujours dans un appartement marseillais. Mes invités, Jean-Paul Brigelli et Françoise Guichard, amis depuis 25 ans, l'une et l'autre ont la cuisine, le professorat, le rugby, la littérature au cœur. Aujourd'hui, l'un et l'autre se racontent au travers de leur parcours dans l'écriture et la lecture, jusqu'à faire de ces deux activités travail de romancier, de critique littéraire et cinématographique. Autrement dit, comment devenir et être soi en écrivant, lisant et prescrivant. Bonjour Jean-Paul, bonjour Françoise. Donc la dernière fois, j'ai été obligé de vous arrêter. Nous parlions, vous étiez plutôt en train de parler de votre roman Soleil Noir et de son écriture et comment ça vous est venu et comment vous l'avez construit, bâti et puis écrit.
Donc il fallait deux héros qui se complètent, le bras et l'esprit. C'est le titre d'un chapitre de Dumas dans 20 ans après. On a des modèles. Moi, le modèle incontournable, c'est Alexandre Dumas. Voilà. Quand j'avais 10 ans, on avait fait 6 kilomètres à pied avec mes parents, parce qu'il n'y avait pas de bus à l'époque, pour aller voir en deux époques, donc deux mercredis de suite, Les Trois Mousquetaires de Bernard Borderie avec Gérard Barré. Voilà. Comment ça s'appelle, qui est morte il n'y a pas très longtemps, là. Mais, non, pas Michel Mercier. Ça va me revenir. Donc c'est un modèle incontournable. Ce qui fait qu'après avoir écrit Soleil Noir, qui se termine comme il se termine. Je fais actuellement la suite et j'ai gardé, alors l'un des héros est rentré chez lui avec une épouse conquise à la pointe de l'épée, comme on devrait toujours conquérir ses épouses d'ailleurs. Et l'autre devient le médecin attitré mais secret de Louis XIV. Et comme il a fait des voyages en Orient, etc., c'est un surdoué linguistique, il apprend une langue en 10 jours sans problème. Enfin, ça, c'est pas de la fiction, hein. Il y a des gens comme ça. On l'envoie, ça c'est ce que je suis en train d'écrire, on l'envoie dans une mission extrêmement secrète à Constantinople, ou Istanbul si vous préférez, les Turcs étant à l'époque nos alliés. C'est une alliance constante. François Ier s'était allié avec les Turcs, Richelieu s'est allié avec les Turcs, Louis XIV s'est allié avec les Turcs. L'idée, c'était de prendre les Habsbourg, c'est-à-dire les Autrichiens, à revers. Voilà. Comme quoi, on attaquait un prince catholique, les Autrichiens étaient catholiques, en s'appuyant sur des musulmans. Les diplomates actuels devraient en prendre la graine. On ne s'entend bien, finalement, qu'avec des gens qui sont potentiellement des ennemis. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on se fasse des niches par-ci par-là. Les Turcs enlevaient des tas de gens sur les côtes françaises. Les Français allaient reconquérir Alger, qui était tenu par les Ottomans à l'époque et pas par les Algériens. Je dis ça au passage. Pour récupérer des otages, le duc de Beaufort y est resté. C'était une époque extraordinaire. En plus de ça, il y a des hasards objectifs. Je me dis, bon, allez, j'ai commencé en 1785-86. Ça, c'est le volume précédent. Là, je suis en 87-88. Eh bien, en 87-88, à Constantinople, ou Istanbul, c'est la merde la plus totale. Il y a un grand vizir qui change tous les 3 mois. Entre-temps, ils sont exécutés, de la manière que vous voulez, d'ailleurs. J'ai écrit il y a 3 jours un très, très beau récit d'empalement qui me faisait saliver pendant que j'écrivais. Ça, je le dis très franchement aux sadiques qui nous écoutent. Faites de la littérature, plutôt. Vous aurez l'occasion d'être sadique à fond, quand même, plutôt que de tripatouiller des petits garçons. Donc, le héros va se retrouver là, dans des négociations très complexes, dans une situation, parce qu'il commence ses négociations avec un grand vizir qui est décapité 3 semaines plus tard, avec un sultan qui est déposé 6 mois plus tard, etc. Il a comme il est médecin, alors c'est un grand médecin quand même. Hein.
Est-ce que vous êtes en train de divulgâcher votre
Non, je divulgâche rien, parce que c'est les 30 premières pages. Hein. Et le sultan en place, Soliman II, est un homme malade, atteint d'hydropysie. Alors on ne savait pas trop ce que c'était l'hydropysie. Bon, pratiquement, c'est de la rétention d'eau poussée à l'extrême. Vous avez des espèces de vésicules qui se forment partout dans le corps. On soignait ça en incisant les vésicules. Enfin, ça devait faire un mal de chien. En pratique, pour vous donner une idée de l'époque quand même, l'hydropysie vient souvent d'une malformation cardiaque. Et il ne pouvait pas émettre l'hypothèse parce que dans la médecine telle que les anciens l'avaient établie, le cœur étant l'organe parfait ne pouvait pas être malade. Voilà. On en est un peu revenu quand même. Hein. Heureusement, ça a sauvé la vie de quelques dizaines de millions de personnes. Mais voilà. Donc, je m'amuse beaucoup à écrire des histoires de yatagans qui volent de tremblements de terre à Smyrne, Izmir, en juillet 1688, 16 000 morts quand même, etc., de vieux de la montagne qui ressuscitent le club des Achichines, et j'en passe, et ça va, je sais pas encore comment ça va se terminer, bien sans doute parce qu'il y a un troisième tome en prévision.
Vous m'avez parlé de votre méthode préparatoire. Vous aviez une sorte de tableau pour marquer le rythme, savoir quand une action devait arriver.
Alors là, c'est pas préparatoire. C'est vraiment au moment où j'écris, je fais un repère, un abscisse et ordonnée, avec d'un côté la continuité du récit, c'est-à-dire le timing finalement, et de l'autre l'intensité des chapitres. L'intensité émotionnelle. Hein. Et il faut impérativement, c'est le principe donc des cailloux blancs du petit poussé, il faut qu'il y ait un certain nombre de repères là comme ça qui viennent, pas tout le temps, il ne faut pas que ce soit constamment intensif, sinon ça perd complètement de son efficacité. Il faut qu'il y ait des retombées, des moments plus calmes, des dialogues, un peu de romance, et puis il y a d'autres moments, des moments extraordinairement violents, etc. Et ça doit suivre une courbe très rigoureuse. J'ai eu des modèles, hein, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup lu Ian Fleming quand j'étais petit, et Umberto Eco a fait en 1965 une analyse extrêmement célèbre qu'on peut trouver d'ailleurs sur le net, sur la combinatoire narrative des James Bond, qui sont des modèles, je vous le dis comme ça, Ian Fleming, auteur, est très au-dessus de ce que ça a donné en film, même si j'aimais beaucoup Sean Connery.
On continue avec vous, Jean-Paul. Dans la première moitié des années 2000, je suis venu écouter un de vos cours en classe prépa. C'était au lycée Joffre à Montpellier. Vous invitiez les habitués de votre blog Bonnet d'âne et les autres aussi à venir vous voir pratiquer votre métier de prof. Ce cours m'a fait découvrir René Girard et sa théorie du désir mimétique. Je le découvre grâce à vous, je lis mensonges romantiques et vérités romanesques, c'est l'éblouissement. Et puis quelques années plus tard, grâce à votre cours au lycée Joffre, je fais la démarche de rencontrer René Girard chez lui à Palo Alto, en Californie. Merci Jean-Paul. Après avoir exposé en quelques mots cette théorie mimétique, pourriez-vous dire quel est l'objet à atteindre, voire posséder, dans votre désir d'écrivain, et qui sont votre ou vos modèles en écriture, vous en avez un peu parlé. Je vous sais clairvoyant pour le savoir, Jean-Paul est toujours franc pour le dire.
Alors, il y a quelque chose d'érotique dans l'écriture. Il y a quelque chose qui est de l'ordre... je veux faire une... on va passer, vous savez, les métaphores ont toujours un sens. Hein. Jusqu'à la fin du XVIIIe, on écrivait à la plume. Et pour bien écrire, il fallait tailler la plume. Voilà. Tailler une plume, c'est devenu une expression triviale qui appartient à un autre ordre que l'écriture, mais on sent bien que c'est du même ordre. Il y a un passage extraordinaire d'un roman d'Italo Calvino qui s'appelle « Si par une nuit d'hiver, un voyageur », dans lequel il assimile l'acte amoureux à un acte de lecture. Le passage commence par « Lectrice, voici que tu es lue ». Et il montre très bien comment la lecture érotique n'est pas une lecture linéaire, mais une lecture à bond, à ressaut, à voilà. C'est et quand on écrit, c'est quelque chose qui est absolument du même ordre. Il faut qu'on soit. Flaubert a très très bien dit ça. Hein. Il explique que il est totalement transporté, qu'il est dans la fureur érotique, que voilà, je suis un homme plume, etc. Et il est quand il écrit des scènes, il y a des scènes grandioses, hein, scènes dans la calèche, dans Madame Bovary, on voit très bien que Flaubert écrit ça en érection. Hein, il le dit lui-même, hein, l'érection est venue à force de manustirper. Enfin, c'est quelque chose absolument. Bon, c'est cet ordre-là. Ce n'est pas une activité véritablement intellectuelle. C'est une activité, alors je vais dire érotique. Hein, et je l'ai toujours vu comme ça. Hein, la lecture est de toute façon une activité érotique. Ça vient forcément quand on a commencé à apprendre le béaba dans Sade, si vous voulez. Voilà, il y a un point à ce niveau-là. Et je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments, exactement comme quand on fait l'amour, il y a des moments où ça retombe parce que on n'est pas constamment en train de d'explorer les cimes, si je peux dire. Puis il y a d'autres moments de folie, de fougue, et puis à droite, à gauche, par devant, par derrière, etc. C'est ça, écrire. Si vous n'êtes pas dans cet état quand vous écrivez, je vous le dis, ami auditeur, votre bouquin ne sera pas bon.
Et alors, dans le désir, le triangle mimétique, quels sont vos, c'est pas les adversaires, mais disons vos modèles qui peuvent être vos concurrents?
Alors, le modèle lointain, si je puis dire, le modèle paternel symbolique, c'est Alexandre Dumas. Faire comme, je rappelle, ça veut dire faire mieux. Hein, voilà, c'est toujours comme ça. Et en même temps, une part de moi, assez curieusement, se dresse contre ce genre de littérature. C'est-à-dire que j'adore la littérature d'action, etc. Et en même temps, je suis un grand fan de littérature romanesque, même au sens le plus romantique du terme. Hein. C'est je suis parti de ces ados qui avaient trouvé que Le Grand Molle était un roman fabuleux, et je le trouve toujours. Voilà, il n'est plus, Alain Fournier n'est plus à la mode. Ouais, c'est tournant du siècle, l'autre siècle, etc. Essayer de faire aussi bien en 250 pages, vous voyez, voilà. Donc il y a le mimétisme du modèle que l'on a lu, la nécessité de créer un contre-modèle, et en même temps, comment on écrit pour quelqu'un, la nécessité, au fond, de plaire à ce quelqu'un. Alors, on écrit prioritairement pour une personne, mais cette personne se diffracte en une infinité de personnes. Est-ce qu'on écrit pour un homme ou pour une femme ? Déjà, hein, en sachant que 80% des lecteurs sont des lectrices, ça laisse... voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui parle à l'imagination féminine. Et en même temps, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plein de virilité. L'auteur est par définition un être sexuellement ambigu. J'ai quoi que ce soit d'homosexuel en moi, c'est passé dans l'écriture. Voilà. C'est ça. Hein. C'est un peu comme le candolisme. Vous savez, lorsque le roi Candole a montré sa femme à son grand officier Gigès, et du coup, ils se sont entendus pour tuer Candole, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous exhibez quelque chose qui vous est absolument cher, en sachant que quelqu'un d'autre, un lecteur que vous ne connaissez pas, va se l'approprier. Et je veux dire, ça fait partie des des choses qu'on imagine forcément. Donc j'ai fait un assez grand nombre de romans érotiques. Et je dois dire que je me suis toujours... ça m'a toujours beaucoup amusé de me dire qu'un très grand nombre de gens avaient dû avoir des gestes ultimes en lisant ma littérature.
Eh bien, je viens à vous, Françoise. Alors, Françoise, oui. À partir de la sixième, vous avez fait latin puis grec, vous avez étudié. Ces deux langues et cultures accompagnent votre existence. Avant de parler tout à l'heure d'Homère et de Saint-Augustin, quelle place tiennent dans votre vie, vous qui avez vécu une mutation en Vendée, dans votre sensibilité et vos convictions, ces deux cultures et langues, ainsi que l'espace géographique qui les virent naître et se développer, je parle de la mer Méditerranée et du bassin méditerranéen, et l'on peut dire que culturellement et littérairement, ça déborde de ses limites physiques.
Oui. Écoutez, je ne voudrais pas dire de mal de la Vendée, au cas où il y aurait des auditeurs vendéens, on ne sait jamais, qui sont de passage à Montpellier, qui m'entendraient, mais je dois dire que c'est quand même un choc culturel, hein, quand on se retrouve à 24 ans, sortant de la grègue, dans un trou perdu du sud Vendée. C'est le dépaysement total. Je crois que j'aurais été beaucoup moins dépaysé si on m'avait nommé en Espagne, en Italie, au Portugal ou en Grèce, que ce que j'ai pu ressentir lorsque je me suis retrouvée dans le sud Vendée. Alors certes, c'était au sud de la Loire, mais pas de beaucoup quand même. Un pays de langue d'oil, donc déjà c'était un petit peu compliqué avec les parents d'élèves qui patoisaient, parce que je comprenais absolument rien à ce qu'ils racontaient. C'était pas ma culture, quoi. Absolument pas. Rétrospectivement, bon, je me dis que j'ai fait une dépression, même si sur le moment je vivais pas ça comme ça. L'endroit à fuir. Il se trouve que j'y ai passé 21 ans, donc ça a été quand même un peu du rail, surtout comme disait Woody Allen, hein, surtout vers la fin. C'était une autre planète, et je crois que c'est toujours une autre planète.
Et pour la Méditerranée, et pour goût pour la culture méditerranéenne, les cultures ?
Oui, les cultures méditerranéennes. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, d'abord parce que j'y suis née, ensuite parce que, comme vous l'avez dit, le latin et le grec, ça remet une couche linguistique, culturelle et affective sur des souvenirs d'enfance et de jeunesse où on est davantage, allez, je vais pas faire le petit Marcel Pagnol, mais enfin c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de ça quand on Marcel Pagnol, auteur injustement décrié, c'est très bien Pagnol, y compris les souvenirs d'enfance et de jeunesse. J'en profite d'ailleurs pour dire que les poèmes de jeunesse de Marcel Pagnol viennent de sortir et que c'est tout à fait très bien. Ça c'était juste ma petite parenthèse. C'est le chagrin que j'ai pu avoir de me retrouver là-bas, ou quand je redescendais dans le sud aux vacances scolaires, de me dire, bon sang, dans quelques jours, il faut que j'y retourne, c'est indescriptible.
Nous arrivons au moment de la pause musicale. Pour cette pause musicale, Jean-Paul, vous avez choisi de faire écouter Led Zeppelin, Cachemire.
C'est un monument.
Alors, transcendons. Thank you. Vous écoutez Radio FM+, 91 FM, Françoise Guichard et Jean-Paul Brighelli se racontent au travers de leur parcours dans l'écriture, la lecture et leur activité de critique. Nouveaux moments avec vous. Être lecteur et lectrice, et surtout relecteur et relectrice, attentif d'œuvres qui peuvent être millénaires. Traverser les âges, suivre des héros et des héroïnes, est-ce acquérir une éthique ? En un mot, Françoise et Jean-Paul, êtes-vous des êtres humains sous influence ?
Ah, ben certainement, de toute façon, un être humain sans influence, ça n'existe pas, il y a des bonnes et des mauvaises, donc j'espère que j'ai eu les bonnes, mais naturellement, lire et relire, bon, sujet... de disserte, bien sûr, mais évidemment qu'on on relit certains ouvrages, bon, dans des moments, pas forcément d'ailleurs des moments heureux, mais ça aide, oui, ça aide à vivre. Autrement, j'ai oublié encore la deuxième partie de la question, je vais m'avoir une mémoire de poisson rouge.
Je parlais d'éthique, est-ce que lire... Oui,
d'éthique, oui. Alors là, c'est certainement on parlait des héros modèles ou des héroïnes modèles, naturellement. Alors après, on fait ce qu'on veut avec. Mais tout à l'heure, là, vous m'avez posé une question à laquelle j'ai pas répondu, hein, sur les gens qui n'aiment pas lire les romans et dont je pense qu'ils sont incapables de se projeter hors de leur petite personne. Il y a Emmanuel Carrère, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a écrit « D'autres vies que la mienne ». Voilà. Et je crois que c'est ça, lire des romans, c'est entrer dans une autre vie que la sienne. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui est Diderot, dans l'éloge de Richardson, qui est un éloge du roman, en fait, et qui écrit, là encore, je cite de mémoire, « Oh Richardson, une fois qu'on a lu, quand t'as lu... » Bon, alors, bien sûr, on va enlever le côté emphatique, mais grosso modo, l'idée, c'était qu'après avoir lu un roman de Richardson, on se sent exactement comme si on avait passé la journée à faire le bien, alors qu'en fait, bon, on n'a fait que lire, quoi. Donc, on s'est projeté dans le personnage bienfaisant, éthique, moral. Bon, c'est vrai que pour Diderot, ça aussi, c'est important, cette dimension éthique, même si par moments, aujourd'hui, ça a tendance à faire ricaner. Et voilà, la lecture des romans, c'est ça, c'est se projeter dans un ou une personnage, c'est-à-dire que moi, voilà, je suis une femme, 70 ans, machin, et suivant ce que je lis, ben, je vais me trouver dans la peau d'un jeune homme de 20 ans ou d'une vieille dame de 90 ans, ou de D'Artagnan, pour en revenir à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure sur Alexandre Dumas, enfin bref, sur des gens qui sont complètement différents de moi, je vais vivre des expériences que je n'ai jamais vécues et que je ne vivrai jamais dans la vie réelle, et c'est ça qu'apportent les romans, avec bien sûr tous les risques que ça comporte, parce que bon, on peut devenir Emma Bovary aussi, et là ça finit mal, mais bon, peut-être pas trop ou Don Quichotte, voilà. De toute façon, Emma Bovary, c'est Donia Quichotte, hein. C'est la figure féminine de la lectrice, voilà. Donc c'est à peu près une éthique, mais éthique au sens large, quoi. C'est-à-dire éthique au sens de la morale, mais éthique aussi au sens de l'éthos, hein. C'est-à-dire qu'il y a davantage une manière d'être, une manière de faire, un comportement. C'est tout ça qu'apporte la lecture en général, et celle des romans en particulier.
Jean-Paul ?
Alors, non seulement ça, mais en plus, ça construit la sensibilité. Il ne faut pas croire que c'est uniquement l'expérience personnelle qui... je vais donner un exemple. Quand on est prof et qu'on prépare à des concours, on doit enseigner à ses élèves comment lire un texte, le lire à voix haute. Et il faut absolument qu'il y ait une émotion qui passe. Si l'émotion passe, vous avez déjà la moyenne, parce qu'on a compris que vous avez compris. Ah oui, monsieur, mais c'est très difficile, parce qu'enfin, si on ressent pas l'émotion, je dis, ben, allez chercher. Alors là, je suis sorti l'acteur studio, Lee Strasberg, etc. Allez chercher en vous une expérience personnelle, dans laquelle vous puissiez puiser. Ah ouais, mais on peut pas, on n'en a pas d'expérience. Je dis, ben oui, mais si vous lisiez un peu. Je dis, ben, imaginons, par exemple, qu'il faille que vous ayez des larmes dans la voix. Comment faire ? Ouais, je pense à ma grand-mère. J'ai dit, oui, pourquoi pas? Allez-y, faites-moi une démonstration. Oh, je peux pas, là, comme ça. Si. Et donc, je leur ai fait une démonstration. Alors, j'ai un truc, personnellement, pour avoir des larmes dans la voix. Je fais un cumul entre la mort du chien d'Ulysse dans l'Odyssée, lecture très, très, très ancienne, pourtant, Argos, c'est irrésistible. Et la mort de mon dernier chien, qui s'appelait Phébus, qui était un bouvier bernois adorable, d'une bêtise, d'une gentillesse, bon, enfin, peu importe. Et le cumul des deux me permet d'avoir des larmes dans la voix pour un texte qui ne parle ni de chien, ni de quoi que ce soit, etc. Ou, dans certains cas, dans des situations réelles, où il fallait absolument que j'aie l'air ému, alors que c'était une pure construction intellectuelle. La littérature vous donne ça. Ah ouais, monsieur, mais c'est pas authentique. Mes pauvres crétins, mais qu'il est bête. Le problème même, le problème, c'est l'effet que vous faites. C'est cet effet qui est authentique. Voilà. Alors effectivement, le risque, c'est de s'abîmer dans la littérature au sens pur du terme, hein, c'est-à-dire tomber dans la littérature, dans le gouffre littéraire. Mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup lire et puis trier petit à petit, arriver à relire d'ailleurs dans certains cas, parce qu'il y a des livres qui sont absolument inépuisables, hein, à tout point de vue. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu Les Angeuses, par exemple, hein, parce que c'est inépuisable, y compris dans la variété des tons. Il y a le côté polyphonique qui est absolument fabuleux. Bon, et ce qui fait que, en tant que critique littéraire, pour Marianne, pour Causeur, etc., j'ai un peu de mal avec toute une littérature moderne qui, comme disait Françoise tout à l'heure, écrit avec son nombril. C'est qui est absolument insupportable parce que je n'ai rien à foutre de leur nombril. Vous voyez, on écrit avec des mots. Ça semble curieux, hein. On écrit avec des mots dans un certain ordre disposé. Soit cet ordre est bien pensé, et à ce moment-là, ça produira un effet. Soit cet ordre, c'est du grand n'importe quoi, et ça produira du babil.
Il est temps, Françoise, de vous laisser la parole sur Homère et Saint-Augustin. Au téléphone, nous avions parlé de ce que vous essayez d'être juste, au sens de justice et de justesse. Sur le moment, m'avez-vous dit, on fait comme on peut, on bricole, on improvise. Et puis, vous m'avez parlé d'Homère, puis des confessions de Saint-Augustin, de l'épisode du vol des poires, d'Alipius et du combat des gladiateurs, c'est dur à dire. Que m'en avez-vous dit et qu'en diriez-vous encore?
Alors bon, je vais commencer par l'Odyssée. Bon, alors, ça fait partie des trucs que j'ai dû lire 50 fois. Je dirais la même chose que Jean-Paul il y a deux minutes à propos du roman de Laclos. Mais l'Odyssée, bon, c'est absolument inépuisable, quoi. C'est vraiment, chaque fois que je le relis, je suis absolument épaté, quoi. Je me dis, mais c'est...
Et ça a été écrit il y a 2800 ans.
Absolument.
Tant pis pour les gens qui croient que seule l'actualité est belle.
Voilà. Et c'est vraiment, bon, ces personnages de l'Odyssée, les situations, enfin, il y a tout là-dedans, quoi. Il y a eu une époque de ma vie, bon, j'étais un peu jeunette, où, dans des moments de grand désarroi, j'ouvrais l'Odyssée au hasard, un petit peu comme certaines personnes ouvrent le Yiking, ou la Bible, pour me lire une page et me dire, bon, ben voilà, peut-être ça va me parler, ça va me donner une clé. Bon, alors, évidemment, c'était un rapport un petit peu magique à l'œuvre, mais c'est vrai que c'est merveilleux. Quoi. Ulysse et Nausicaa, il arrive sur la plage, il sort de la tempête, il est dans un état, mais il est lamentable et tout. Il y a Nausicaa et ses copines, et tout nu, voilà. Il y a Nausicaa et ses copines qui sont en train de faire leur lessive dans la petite rivière là, qui se jette dans la Méditerranée. Et bon, bah, évidemment, il n'y a pas de feuilles de vigne à l'époque, mais enfin, il y a un palmier, donc il prend une branche d'arbre, il camoufle sa nudité, et il s'avance. Bon, évidemment, toutes les jeunes filles partent en courant, sauf Nausicaa, parce que c'est la fille du roi, et qu'elle a quand même... la fille du roi, quoi, on se tient. Il s'agenouille devant elle, et il lui dit, en grec, gounomaïsé anassa, reine, je suis à tes genoux. À une petite gamine qui doit avoir 13-14 ans et qui est en train de faire la lessive. Mais c'est génial, je donne l'œuvre entière de Chrétien de Troyes. Bon, c'est vrai que ça, j'ai un problème avec le Moyen-Âge. Mais je donne l'œuvre entière de Chrétien de Troyes pour ce vers d'Homère. Mais c'est positivement génial. Alors, quand je pense qu'il y a une tartignole dont le nom ne me revient plus, qui avait pondu il y a quelques années un article dans le magazine littéraire sur Ulysse qui a violé Nausicaa, mais putain, mais lis le texte en douille! Que dit le texte ? Bon, c'est vrai que c'était un peu mantique, là. Jean-Paul s'est moqué de moi l'autre jour par rapport à ça, mais je ne dis pas ce que dit l'auteur, mais déjà ce que dit le texte. Bon, première chose, est-ce qu'il la viole, Tartignol ? Mais pas du tout. Bon, ça c'était ma parenthèse de mauvaise humeur. Mais c'est vrai qu'il bon, y a des épisodes dans l'Odyssée, mais c'est absolument merveilleux. Puis en plus, Ulysse, c'est quelqu'un que j'aime. Parce que, voilà, c'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est Paris. C'est pas le plus grand. C'est pas le plus sage. Le plus sage, c'est Nestor. C'est pas le plus intelligent, mais c'est le plus malin. Il a la métisse.
Et c'est le plus pistonné.
Alors, en plus, c'est vrai qu'il y a quelques dieux et déesses pour l'aider, mais enfin, il y a Poséidon qui l'aime pas quand même. Hein. C'est quand même aussi celui qui est victime de l'acharnement de Poséidon. C'est un personnage absolument épatant, puis alors tellement méditerranéen. Et il y a, alors ce que je recommande au lecteur, là, si j'ai encore une minute, il y a la naissance de l'Odyssée de Jean Giono, qui est un de ses premiers textes publiés, qui est un petit texte absolument épatant. Alors là, l'idée de Giono, et en plus c'est pas stupide du tout, alors Giono qui n'avait fait ni latin ni grec, mais qui avait tout lu en traduction dans des petits livres bon marché qu'il achetait à Manosque avec l'argent de sa petite paye d'employé de banque. Et donc, il imagine qu'en fait Ulysse, il n'a pas du tout vécu ses aventures. En fait, il a glandouillé pendant 10 ans dans tous les bars du bassin méditerranéen, dans toutes les gargotes du bassin méditerranéen, en compagnie de femmes de mauvaise vie. Et quand il revient à Ithaque, ben, faut quand même raconter des choses à Pénélope. Et du coup, il lui raconte l'Odyssée. Voilà. Et c'est vrai qu'Ulysse est un grand menteur. Et c'est un grand menteur. Et tous les écrivains sont des grands menteurs. Fellini avait écrit un petit livre absolument passionnant qui s'appelle « Je suis un grand menteur ». Les écrivains, c'est tous des grands menteurs, sinon ça ne marche pas.
Et Saint-Augustin ?
Alors Saint-Augustin, là, ce n'est pas un grand menteur. Là, c'est... Quoique, après tout, peut-être. Tiens, je vais réenvisager la question sous cet ordre. Saint-Augustin, alors là encore, c'est la grande claque. D'abord parce que c'est un latin magnifique. Ensuite, parce que c'est d'une intelligence foudroyante. C'est quelqu'un qui est capable d'analyse psychologique. Vous parliez tout à l'heure du vol des poires. Mais c'est absolument merveilleux. Les gamins, là, qui sont en train de... Bon, ils s'emmerdent, hein, disons-le carrément. Ils s'ennuient dans leur petit bled. Bon, il y a un poirier avec des poires... en Afrique du Nord, voilà. En la limite, dans la région de Bonne, grosso modo, hein, puisqu'il était archevêque d'Hippone. Il sera plus tard archevêque d'Hippone. Hippone, ça correspond à Bonne, présentement à Naba. Donc, on est à la frontière algéro-tunisienne. Enfin, à cette époque-là, on est en Numidie, dans l'Empire romain. Et d'ailleurs, Saint-Augustin, c'est un Numide. Alors, il ne faut pas parler sèchement à un Numide, comme disait Astérix, mais revenons à notre sujet. Oui, je sais, j'ai honte, mais c'était tentant. Donc, voilà, il raconte, bon, puisque les confessions, ça commence par ses souvenirs d'enfance, donc là une troupe de garnements, ils s'embêtent, quoi, ils décident d'aller voler les poires. Et les poires, ils savent très bien qu'elles sont dégueulasses, qu'elles sont même pas bonnes à manger aux cochons. Et là, je cite le texte quasiment de mémoire, mais ils vont les voler quand même juste pour le plaisir de voler. Et il y a une analyse, mais alors vraiment d'une justesse psychologique, même chose pour Alipus qui est contre les combats de gladiateurs, il veut pas y aller, il trouve ça sanglant, atroce, un peu comme aujourd'hui, on peut trouver des bectantes et la corrida. Et puis les copains le traînent au cirque voir les combats de gladiateurs, donc ils décident de fermer les yeux. Ils leur disent bah, « Parfait, puisque vous m'avez traîné contre mon gré, j'irai, mais je fermerai les yeux, je mettrai les mains devant mes yeux et je ne regarderai pas ». Puis évidemment, à force d'entendre le public autour de lui qui pousse des hurlements de joie, etc., bah, il ouvre les yeux, il regarde le combat. Et Augustin, alors là je vais citer en français quand même, « Au moment où le gladiateur tombe, Augustin écrit « Et il tomba plus encore que le gladiateur égorgé par son collègue, puisque malheureusement ils étaient collègues à l'école de gladiature. » Et Il y a des analyses, mais d'une pénétration, d'une intelligence, c'est absolument extraordinaire.
Et ça a été écrit il y a 1600 ans. Hein, je ne voudrais pas avoir l'air d'insister là comme ça, mais quand même.
Jean-Paul, Françoise m'a signalé que si je vous demandais de raconter votre Alexandre Dumas père, vous seriez intéressable à son sujet. C'est le moment, vos vannes peuvent s'ouvrir, le fil du fer vous laisse parler d'Alexandre Dumas. Je regarderai seulement ma montre quand il faudra, peut-être, pour passer à la question suivante ou terminer l'entretien.
Alors, tout le monde se rappelle les trois mousquetaires. Je rappelle que les trois mousquetaires sont quatre. Hein, et la question, c'est, mais d'où sortent ces quatre héros? Alors, j'ai une hypothèse, parce que je suis allé à Villers-Cotterêts, dans la maison de Dumas, qui est devenue un musée, etc. Alexandre Dumas, comme un peu tout le monde, avait un père. Ce père est un héros, un vrai héros. Hein, c'est un métis. Alexandre Dumas, lui, était ce qu'on appelle un quartoron. Il avait un quart de sang noir, etc. C'est un métis qui s'est battu pour la République. Alors, quand je dis que c'est un métis, c'est un géant en même temps. Il fait plus d'un mètre 90, il a une force prodigieuse. Arrivant à cheval dans une halle de village, une halle couverte de village, il a saisi la poutre maîtresse de la halle et il s'est soulevé avec le cheval. Voilà. Hein. Je pense que c'est parti de là, hein, mon amour pour Dumas. Les quatre mousquetaires sont la diffraction du père. Porthos a la force physique, Aramis a la séduction, parce que le père de Dumas se tapait la sœur de Napoléon, Pauline, qui était d'une beauté, voir la sculpture de Canova sur le sujet. Athos avait, c'est la noblesse d'armes, il avait été chargé de la répression en Vendée, il a refusé de le faire à tel point qu'on l'a appelé « monsieur de l'humanité », pour donner une idée. Voilà. Et D'Artagnan, c'est l'intelligence combat. L'intelligence pratique, etc. Il a diffracté son père en quatre épisodes. Et alors il faut imaginer, le père meurt, Dumas a 3 ans. Et il meurt d'un cancer des reins. C'était abominable de mourir d'un cancer à l'époque. Il n'y avait pas d'opium, il n'y avait pas de morphine, il n'y avait rien. Hein. On avait juste mal. Et donc, comme il hurle, on envoie le petit garçon de l'autre côté de la rue, c'est une espèce de ville-rue, Villers-Cotterêts, chez ses cousins. Et il dort dans une pièce où il y a sa petite cousine. Puis, sur cette pièce, il y a une porte muette qui donne sur rien, et puis une autre pièce qui donne sur l'entrée, etc. Et à minuit et quelques, il y a des coups qui sont portés à la porte qui donne sur rien. La petite fille se réveille, hurle, et Alexandre Dumas, c'est lui qui raconte, hein, il a 3 ans, dit « ce n'est rien, c'est papa qui vient me dire au revoir ».
Merci en tout cas infiniment pour le temps que vous m'avez accordé pour ces 5 fils du fer, Jean-Paul et Françoise. Et...